France Inter.
C'est la bande, c'est la bande originale avec Leïla Kabilabi, Mélodie Fontaine, Tristan Lopin, Alexis Rossignol, Denis Pastureau et nos invités Alice Belaïdi et Artus. Comment allez-vous, tous les deux, Alice déjà, comment ça va?
Mais très très bien.
Mais quelle mine,
voilà.
Ouais. Ça sent l'été.
Dit-il.
Ça sent.
C'est vrai que...
Il y a une petite concurrence là.
Ouais, ouais, on est en concurrence.
Mais je crois que c'est Alice qui gagne quand même.
Ça sent, ouais, elle gagne, évidemment qu'elle gagne.
Ah, je suis plus bronzée que lui là.
Ouais,
ouais, ouais. Cool, là, ouais.
C'est parce que Monoeil et compagnie, je suis sûr.
Non, pas du tout.
Là, Nagui, on dirait un blanc.
Il y a du...
Protection au Monoeil.
À l'huile d'olive.
Artus, soyez le bienvenu.
Merci.
Vous êtes là pour la première fois, non pas pour la première fois dans l'émission, mais pour la première fois en tant que réalisateur,
ouais,
dans l'émission.
Ouais, c'est émouvant.
C'est chic.
Ouais, j'aime peu.
C'est
ouais.
Chic, c'est classe. Et surtout, c'est réussi, on va en parler. Évidemment, de ce film qui est drôle, qui est émouvant, qui est intelligent, qui sortira le 1er mai prochain, ce petit truc en plus. Mais d'abord, un truc qu'on a en début d'émission, c'est retrouver les morceaux, évidemment, juste un clin d'œil. Qui chante ça? Avez-vous une idée?
Leïla, Jean-Jacques Goldman?
Non. Ah non, c'est,
ah non, c'est Gold.
Ouais.
C'est dans le film.
Pas du tout.
Non. C'est pas grave.
J'adore.
J'étais sûr que c'est un film.
Bah non.
Il y a presque. Bah, c'est dans un film. C'est
ouais, ça, c'est sûr.
C'est sûr.
Il y a forcément une vidéo
dans
YouTube.
Star,
non, mais c'est
dans Star 80, c'est forcément.
Non, mais c'est pas un film qu'on a vu cette semaine.
C'était dans Star 80.
Ouais, c'est dans Star 80, je pense.
Non, non. Il y a d'autres films qui font ça.
Non. Non, je te jure.
Ah, c'est faux.
Ah, moi, je t'assure qu'il est pas dans le film. Ça,
on a pas vu récemment un film où il y avait ça.
Non. Alors, il y a ça aussi.
Tristan,
oui.
Angèle.
Oui.
Wow. Ah, faut dire son prénom?
Ouais.
Faut prendre la main. Oui.
Non, j'aime bien répéter mon prénom régulièrement pendant l'émission.
C'est un duo, peut-être, Tristan, Angèle.
Ça s'appelle Plus de sang, c'est le premier gold plus près des étoiles. Donc, un petit plus.
Le
titre, évidemment.
Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux.
Ah, si, avec Big Flo.
Que les yeux les sur mes joues. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Tu comprendras plus tard.
Plus tard.
Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard. Et je comprends pas.
Qui chante ça?
C'est mort ça. Au son c'est mort.
Ah, même moi j'aurais pas trouvé.
Oh, bah,
t'es sûr que c'est ça? Je reconnais pas.
Ah oui, là oui.
Leïla, Pascal Obispo.
Oui,
ah, c'est vrai. Tout le monde pour moi. Pardon pour Pascal.
Les chansons, il n'y a plus.
Oui, c'est. Merci, Mélodie.
C'est bon. J'ai le.
Voilà. Hey.
Oh là, on s'est planté là.
Avec ouais, c'est Pascal.
Pascal, ouais.
Ah, non, j'ai pas demandé.
Mais pour une fois, j'en avais un.
Qui chante ça?
Tristan.
Oui.
France Gall.
Non.
Céline Dion. Garou.
Non. Non plus.
Attends, c'est.
Tu peux jouer Alice, hein?
Ouais, ouais, c'est je sais, là.
C'est pas Natacha Saint-Pierre?
Non.
Ah, bah,
Alexis, qui est Minogue.
Non.
Non, je l'ai.
Mais moi, c'est ah,
Alexis, ah, Madonna.
Non.
C'est
français, elle chante en français.
Elle a un accent.
Isabelle Boulay.
Non,
elle a un accent.
Allez, plus haut, Tina Arena.
Non, Tina Arena.
Tina Arena.
Comment? Ouais.
Oui.
Franchement, j'aurais pas dû dire.
Allez, plus haut.
Je la plaise.
Je déteste ça. Et reste, tu t'énerves,
toi.
Je m'énerve parce que j'aime pas parler.
T'es hyper aigu quand tu t'énerves.
À chaque fois.
Déjà, quand tu dégaines, il est pas
aigu, mais là, c'est très aigu. C'est le retour des vacances.
Qui chante ça?
Elle est là, France Gall.
Oui. Plus haut. Ok, plus haut et aller plus haut.
Allez. Okay.
Deux points pour Leïla et deux points pour Tristan. Un point pour Artus. Ah, j'en ai raté un.
On est léger.
J'ai vu qui. Ah, bon, ah oui, donc il y a trois points pour Leïla. Tout se joue là-dessus. Et la victoire. Il y a plus dans le titre, évidemment. Il y a un petit truc en plus.
Ah, non, je l'aime pas en plus. Pardon.
Oh, non, oh, 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 o
Non, le mec de Louise Attaque là, ouais. Merde.
Gaëtan Roussel.
Ouais, bah, ouais, c'est
ah,
non, mais je suis pas un grand fan de sa voix, mais il est très gentil. Mais non, mais je suis fou. Je suis pas un grand fan de sa voix.
Pascal Obispo est mort, Gaëtan Roussel, c'est de la merde.
Au moins, je savais que c'était lui, tu vois.
Alors, je vais rattraper le truc en disant j'adore Gaëtan Roussel.
J'adore Gaëtan Roussel.
Mais c'est quand même moi qui marque le point.
Oui.
Le gars nous attaque, franchement.
Ah ouais, mais par contre, t'as pas la réponse. Tu joues.
Ils sont quatre dans le groupe.
Oui, enfin, celui qui.
Moi, je l'aimais pas trop, alors. Ça meurt quand même.
Victoire de Leïla, cadeau de Dany Lauréat.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kaddour.
Alors, ouais. Ce petit truc en plus, Artus est né il y a 5 ans. Ça, vous avez commencé à avoir l'idée en créant un personnage sur scène, Sylvain.
Non, en fait, l'idée du film, elle date d'il y a même pas loin de 10 ans.
Okay.
Voilà, je me suis dit, si un jour je fais un film, je veux le faire sur ce sujet-là. Et après, il y a le personnage
sujet
de
du handicap mental.
Sur le sujet du handicap, enfin, avec
adultes.
Des acteurs en D'accord. situation de handicap.
Et, après avoir vu Le Huitième Jour.
Ouais, entre autres, le huitième jour, il a 28 ans. Hein. C'est fou, vieux, parce que ouais, souvent,
mais vous avez pu le voir il y a 10 ans.
Oui, non, mais bien sûr. Mais parce qu'on souvent on me dit, il y a ce film-là qui a été fait sur le handicap.
Parce que vous en parlez souvent aussi de ce film.
Tout à fait, parce que je trouve que c'est un film marquant, mais je trouve qu'un film de toutes les 28 ans sur.
Ça dit quelque chose.
Avec voilà, il y en a peut-être pas assez. Et après, en parallèle, il y a le personnage de Sylvain qui est né sur scène, qui est libanais d'ailleurs, qui est né à Beyrouth, un soir bourré, voilà. Il est vraiment né dans un taxi au Liban.
Pour faire rire des potes, donc, en se disant, ce sont des vannes que je vais faire sur les handicapés mentaux, et c'est pas possible de le faire sur scène parce que cet humour-là ne passera pas. Ça reste entre potes.
Oui, déjà, c'est de toute façon toujours un perso quand tu le démarres, et il est fait pour en être en soirée, puis après, tu l'imagines
c'est
sur scène.
Fragile,
mais en fait, lui, il fait pas de vannes. Moi, quand je fais Sylvain, je fais pas de vannes sur le handicap, c'est le personnage qui a un petit truc
faites,
en plus.
Mais vous faites rire sur ce petit truc en plus. Et
oui.
C'est ça qui est réussi dans le film, c'est que vous riez avec des handicapés, vous riez et vous faites rire sur l'handicap sans jamais que ce soit une insulte ou humiliant pour eux.
Non, mais parce qu'en fait, on casse le tabou, justement, il y a pas de, c'est nous qui mettons des barrières, comme quoi on n'a pas le droit de faire de vannes, comme quoi il faut pas aller sur ces sujets-là, comme quoi. Mais en fait, eux, ils sont, et si vous leur posez la question, ils vont vous dire, je suis handicapé, je suis trisomique.
Il y a cette maman problème. Qui vous avait appelé quand vous vouliez inviter un enfant qui était trisomique.
Qui était 21, autiste, qui était porteur.
Autiste, pardon. Et qui vous avait appelé en disant, mais est-ce que tu l'invites à ton anniversaire pour te moquer de lui ou pourquoi
ouais.
tu l'invites? Donc la question se pose, même quand on cherche à être gentil, de savoir pourquoi vous l'invitez.
Ouais, mais parce que justement, comme ils ont toujours eu ce truc-là de soit on se fout de leur gueule, soit on n'y va pas, en fait. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui y va simplement en disant ben non, parce qu'en fait je l'aime bien, il parlait de locomotive, je me souviens, il s'appelait Victor, il était passionné de locomotive. Et à un moment même, je lui disais, ça me gonfle, je m'en branle de telle locomotive, viens, on va faire une balle aux prisonniers, en fait. Et ça faisait du bien parce que là, je lui parlais normalement. La majorité des gens, et c'est pas méchant, mais c'est plus de la maladresse, c'est qu'ils savent pas comment aller vers eux. Donc ils y vont pas, et donc on exclut. Alors qu'en fait, il n'y a pas de technique.
Comme voilà. Ce pote qui était, alors lui, trisomique 21, qui jouait au foot, et qui exprimait sa joie d'une manière totalement dingue, sans filtre, vous disiez, quand vous étiez gamin.
Oui,
aussi. Ça aussi, ça vous a marqué.
Ça m'a marqué, ce côté, ils ont pas les barrières et les codes sociaux qu'on s'est mis nous. Ils te disent, t'es beau, comme ils te disent, il est moche ton pull. Et ça fait du bien, en fait. Nous, on est là, on fait croire tout le temps qu'on est sur la même humeur, qu'on est toujours de bonne humeur, que tout va bien. Non, on a le droit de dire qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie d'être là, qu'on s'aime. Voilà. Et eux, je trouve qu'il y a ce côté sans fil de « je te fais un câlin » et c'est cool. Voilà.
Alors, vous êtes Alice Blaydi dans ce film, monitrice, vous tenez à bout de bras même, une sorte de colonie de vacances, enfin du moins...
Éducatrice.
C'est, voilà, c'est une école, je sais pas comment on peut appeler ça,
centre. C'est un centre.
Un centre, voilà. Mais vous partez pour les vacances.
C'est ça.
Et c'est ce qui donne un côté solaire à ce film, où la lumière est totalement dingue. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes autant bronzé, puisque c'est sur le tournage du film, évidemment. Et vous vous retrouvez à partir, et on le voit dans la bande-annonce, à grimper dans le bus, et c'est les vacances et tout le monde crie la joie de partir en vacances. Vous êtes trois monitrices et moniteurs,
ouais.
Et puis vous attendez un retardataire. Et il se trouve qu'il y a eu un casse juste à côté de ce centre, le casse du siècle, organisé par le père et le fils, c'est-à-dire Clovis et Artus. Et vous vous méprenez, ça part d'un quiproquo en pensant que c'est l'handicapé qui manque.
C'est le nouveau qu'on connaît pas, ouais. Sylvain, ouais. Donc Artus va monter dans le bus à la place de Sylvain et il va se faire passer pour un handicapé. Il va être assez vite découvert.
Et on suit la vie de cette personne qui devait monter dans le bus,
ouais.
Qui a une vie parallèle au film.
Il a sa best life
lui,
ever.
C'était son meilleur tournage. Lui, il a passé son tournage à mettre sa tête dans des nichons.
Lui, il prend un autre bus et il est embarqué par des des
ouais,
étudiants
dans un genre de spring break.
Exactement, spring break à Ibiza. On voit le truc où il n'y a que des filles en maillot et que de la vodka.
C'était la crainte de la maman d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit, j'ai lu le scénario là, mais parce que sa maman est catholique et très croyante, voilà. Et donc là quand elle disait, mais là c'est-à-dire là la tête dans les seins, il prend le shot et tout, j'ai dit, bah il va mettre sa tête dans des seins et prendre le shot.
Wow.
D'accord. Okay. Et donc elle lui demandait, mais t'as envie? Ah bah oui, j'ai envie. Ouais. Bon bah très bien, mais il le fait alors s'il a envie.
Premier long métrage d'Artus, on va en parler évidemment avec Alice Blaydi et Artus jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Mélodie. Mélodie, vous n'auriez pas fait le film comme ça, vous?
Oh là là, c'est vrai que je remplace encore Lisa Delmoitié, oui. Encore une fois. Alors, pour nos invités qui ne sont pas au courant, Lisa Delmoitié a une chronique ici qui s'intitule « J'aurais pas fait ça comme ça ». Vous voyez le délire ou pas? Elle arrive et elle sort droit dans les yeux des invités « J'aurais pas fait ça comme ça ». Vous voyez la tannée tous les matins pour cette personne? Remplacer Lisa, c'est donc claquer son meilleur « J'aurais pas fait ça comme ça » devant le mec qui a écrit et réalisé le film. Et devant la fille qui l'interprète, et devant le mec le plus positif de France après Paul Pogba, Nagui.
Ah bon?
Et puis en plus, aujourd'hui, voilà le sujet. Posetocci, un film sur les handicapés mentaux, un film qui mêle inclusion, braquage et comédie romantique, ouais. Un film qui essaie de faire bouger les mentalités, littéralement, pour le coup. J'aurais pas pu tomber sur un truc facile, moi, je sais pas, Jean-François Piège qui vient nous parler de sa digestion aléatoire, ou Anne-Valérie Pernoul pour son nouveau roman Être une moule zébrée en 2024 aux éditions de la Dope pour ma table basse. Non, non. Il a fallu que ce soit, et là je cite Lisa Delmoitié, sur les gogoles. Et en plus, c'est pas moi, hein. Il a fallu que le film soit super. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Alors, comment sortir des vannes là-dessus, hein? Comment rire des... Enfin, des... Et voilà, quoi. Super. Merci, Lisa. Hein. Pas folle, la collabo. Elle avait senti le coup venir. Hein. Bon, souvent, dans ces cas-là, quand je suis gênée, je fais plein d'analogies à base de légumes, mais là, c'est même pas possible.
Oh, non.
J'ai jamais compris les gens, en plus. Sérieusement, qui se moquaient des handicapés mentaux. Des blagues sur les nanas ou les mecs qui ont une déficience intellectuelle, on en fait sans cesse. Mais les cons qu'ils font de manière sévère, ça m'a toujours déconcertée. Parce qu'un handicap, c'est un état de fait, et c'est donc étonnant de railler une situation immuable. C'est comme se moquer des filles qui sont nées avec des énormes seins, ou se moquer des gens qui sont nés avec des petits pénis. Enfin, un petit pénis, pas des petits pénis. Parce que dans ce cas-là, ce serait quand même assez normal de rire des gens nés avec trois petits pénis.
Ah, c'est vrai.
D'ailleurs, ça pourrait faire une suite à un petit truc en plus, on pourrait appeler ça des petits trucs en plus. Non, je me gare. Bon. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile, comme on le sait, de se moquer des handicapés, mais moins des imbéciles bien intégrés. Ceux qui ont un cerveau dit classique, mais avec une mentalité à chier. Mmh. Il y a moins de prise évidente. Prenons au hasard Jordan Bardella. Au hasard. Ouais. Hein, bon, il a des beaux chicots et il va au coiffeur chez Saint-Algue, le coiffeur des Miss. Du coup, même si de sa bouche ne bave que des âneries, la raillerie semble moins évidente. Enfin, c'est ce que nous indique la télévision française qui ne lui oppose aucune résistance. À croire que la moquerie pure ne peut se faire que si les faiblesses se voient. C'est beau, ça.
Ouais, c'est joli.
Ouais. Ça, c'est pas du Lisa Delmoitié.
Oh, la garde.
ce que je veux dire, c'est que non, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais sans doute fait le film de manière artificielle et condescendante, alors que vous, Artus, et par conséquent vous, Alice, vous l'avez fait avec hardiesse et sagacité.
Merci beaucoup.
Mélodie Fontaine,
où,
mardi
Mélodie
prochain, c'est le dernier mardi, oui. Au point virgule, on te retrouve, et puis cet été...
Enfin non, il y en aura d'autres des mardis au point virgule, mais sans elle, tu veux dire.
Oui,
ouais. Non, on ferme, le point virgule ferme.
Non,
et cet été,
après.
C'est le Festival d'Avignon, dis donc.
Oui, dis donc,
oui.
Tout l'été.
Oh, superbe, tout juillet.
Ouais.
C'est ça commence quand, le Festival d'Avignon?
Le 2.
Le 2 jusqu'au 25.
Jusqu'au 24 cette année.
24, d'accord. Mmh. Très bien. Revenons donc à ce film, Artus. Alors, pour l'anecdote, vous signez le début. Enfin, votre nom officiel apparaît au générique.
Même pas, en fait. Début. Parce qu'il y a Artus Solaro au générique.
Ouais, mais il n'y a pas Victora.
Ouais, il n'y a pas Victor. Mais, okay. Mais c'était juste. Et vraiment, c'est juste parce que comme
pour
on a entremêlé les noms des autres comédiens, s'il n'y avait que Artus, je pouvais mettre qu'un nom. Donc, j'ai mis Artus Solaro juste pour pouvoir mettre.
Moi, je pensais que c'était une manière de dire à partir de maintenant, quand je réalise. Je vais mettre...
Non, c'était vraiment une question de pratique. Ouais. Parce qu'il y a même d'autres films où je suis marqué. Là, par exemple, il y a un film dans lequel je suis, qui est à Cannes. Et là, je suis Victor Artus Solaro. Parce que là, pour le coup,
ça
pour les films un peu plus chics, tu vois, je passe en Victor Artus Solaro.
Ouais.
Quand on est à Cannes, c'est Victor Artus Solaro.
Ok, très bien. Le petit truc en plus, est-ce que vous voulez faire passer aussi, parce que on peut pas faire un film comme ça sans vouloir porter quelque chose, sans vouloir porter un message. Vous êtes aussi ambassadeur quand même des Jeux Paralympiques, donc vous êtes touché par cette cause du handicap et le regard qu'on porte sur eux.
Oui, mais parce qu'en fait, je trouve que on en parle pas souvent, pas assez. C'est 10% de la population, les gens en situation de un handicap, peu importe le handicap.
Et sans compter le nombre d'accompagnants et de personnes qui
sont en compter, voilà. Et après, tout ce qui est handicap mental, en plus, malheureusement, c'est compliqué pour eux d'en parler. Il y a pas, on n'a pas vu des manifs avec 400 000 trisomiques dans la rue. Et du coup, on n'en parle pas, en fait. Et voilà, et je trouve que c'est important de mettre un œil sur eux.
D'autant plus que dans le film, ce qui est intéressant, c'est que la normalité, entre guillemets, le handicap, il n'est pas du côté de là où on croit, en fait. C'est ça qui est intéressant. Dans
qui sont les saints d'esprit.
C'est ça, absolument.
Et ils sont de tous les plans, surtout. Et comment jouer, donc, avec des acteurs qui sont sans filtre, qui, peut-être, ne respectent pas forcément les répliques, ni le...
Oh non.
Les quoi? Les répliques.
Pardon, excuse-moi, je ne comprends pas de quoi tu parles.
Donc, Alice, comment ça s'est
franchement,
passé?
Honnêtement, c'est très, très honnête ce que je vais dire, mais moi, c'est l'expérience de ma vie en tant que
actrice. Vous l'avez écrit pendant le tournage sur Instagram, vous avez dit mais c'est le plus beau tournage de ma vie.
Ah ouais, et puis pour nous tous, enfin, je pense tout technicien, tout le monde confondu, on a vécu un truc extraordinaire. C'est vraiment une expérience d'actrice que j'ai vécue avec eux, parce que moi, je me croyais un peu fragile au niveau du fou rire, parce que je suis en général sur les plateaux.
Vous êtes bonne cliente, comme on dit.
Ouais, je suis bonne cliente, j'ai le fou rire facile. Et j'avais dit à Arthus, je suis peut-être pas le meilleur soldat pour ça. Et en fait, ils m'ont appris une autre forme de concentration, parce que fallait pas gâcher ces scènes. Quand ils proposaient un truc, fallait être là, fallait pouvoir leur répondre et être solide.
Il pouvait n'y avoir qu'une prise par moment, parce que la phrase était au bon moment dans le bon tempo, et il fallait pas la gâcher.
Il y avait une fulgurance, fallait qu'on soit là, fallait que nous on tienne. Puis moi, j'étais un peu une aide pour Arthus, qui pouvait pas non plus tout faire. Donc parfois, j'étais sur le plateau comme ça, à tenir les uns les autres, les placer et tout. Et du coup, je me suis oubliée moi aussi un peu. Et j'étais moins sur moi, j'étais moins sur mon perso, moi, mon texte, mon truc, tout ça.
Ça se ressent pas, et surtout vous êtes l'éducatrice, c'est-à-dire que vous tenez un peu la boutique.
Ça a été ok pour tout le monde dès le départ. On a aussi gardé nos prénoms, donc à un moment donné on savait plus trop, est-ce que j'étais vraiment leur éduc, est-ce que j'étais leur partenaire actrice. On se perdait un peu là-dedans, mais ça nous allait, quoi. On était perdus dans le Vercors, dans ce gîte. On était aussi nous en colo tous ensemble, et c'était magique. Et je crois que le film il a un petit goût de ça, quoi.
Ah, il a le suspense aussi, de l'intrigue. Pardon, il faut pas l'oublier, cette intrigue de départ. Les personnages de Clovis et Arthus braquent une bijouterie. On sent dès le début que c'est un peu quand même des bras cassés, parce qu'il y en a un qui est très, très sévère, très méchant, qui est interprété par Clovis, le père, et qui ont des masques de lapin ou d'animaux.
Moi, j'ai le lapin et lui, il a le renard, évidemment.
C'est évidemment le futé. Et vous prenez un couple en otage, en train de braquer une bijouterie, et vous lui offrez la bague de fiançailles tellement.
Mais parce que je suis pas un méchant. Non, mais en fait, c'est marrant parce qu'au montage, j'ai enlevé plein de choses justement sur la relation qu'on a avec Clovis, parce que je pense qu'en fait, elle est claire, il n'y a pas besoin de l'expliquer. C'est un père et un fils. Je pense que Clovis m'a eu jeune. Moi, c'est ce que je me raconte. C'est un mec qui a eu un gosse tôt, qui s'est retrouvé un peu à faire des petits larcins, et voilà. Et du coup, il mène cette vie depuis toujours. Mais tu sens que c'est pas des méchants. Et moi, mon perso, encore moins. Donc, il va tuer personne, il va blesser personne.
C'est plutôt quoi, de la démerde alors? Parce que c'est quand même un braquage avec des guns. On est pas dans le...
Oui, mais est-ce que c'est des vrais guns? On sait pas. Non, ça peut être des faux pistolets, ils ont des masques. Non, mais pour moi, c'est des gentils. Il y a des braqueurs gentils.
Je sais pas. Non, je vous laisse vous débrouiller tout seul. Je ne t'aiderai pas.
Il y en a des gentils, il y en a qui ont l'air sympas.
Oui, et il y a Gaëtan Roussel. Et puis, la solution, donc, l'échappatoire, après avoir, là aussi, autre message, après avoir garé leur voiture sur une place handicapée qui est partie en fourrière, ça aussi, c'est...
Ah bah, vous avez jamais vu Arthus voir un mec se garer sur une place handicapée alors qu'il l'est pas.
C'est un peu ma lutte, mais je peux le rendre.
Excusez-moi, monsieur. Vous êtes pas handicapé, j'ai pas l'impression que vous êtes handicapé, en fait. Et là, on est au McDo, viens, on va prendre notre truc buffet.
Et justement, votre personnage est très proche de vous, justement, avec ce côté sans filtre. Vous l'êtes aussi dans le film. C'est-à-dire, dès l'instant où il y a l'un des adultes handicapés mentaux qui vous dit « Toi, t'es pas malade », et on le voit dans la bande-annonce, la scène est sous la douche, immédiatement, vous dites « Bah ouais ». C'est-à-dire qu'ils cherchent même pas à mentir.
J'essaye deux
secondes,
minutes,
quoi.
Mais ouais, en fait, ils sont tellement grillés. Mais c'est ce que je voulais dans le film, c'est que je voulais pas qu'on se moque d'eux, et que voilà. Et donc là, le fait qu'ils nous grillent très vite, en fait, très vite, ça devient des alliés. Et en fait, c'est eux qui font.
Enfin, votre allié, pas celui de Clovis, parce que.
Non,
Clovis,
mais même Clovis, il pourrait le balancer, parce que si moi je suis pas. Mais en fait, ils sont pas là-dedans, ils ont des nouveaux potes, ils ont envie de se faire des potes, et voilà. Et cette relation, elle est plus saine comme ça. Le fait qu'ils nous grillent vite, je pense que ça. ça rend le truc plus simple.
Et puis le personnage de Clovis, il va aussi développer des liens avec l'un des pensionnaires. Donc en fait, il n'est pas non plus complètement extérieur à l'histoire, quoi.
Et là, on est proche de la vérité aussi, parce que le football, c'est une porte d'entrée dans la vie de Clovis assez facile. On parle foot, on est son ami.
Ouais, tout à fait. Enfin, sauf quand on parle du dernier match, là.
On n'est pas obligé de parler de Lyon, on peut parler du foot en général.
Voilà.
Ce film a été difficile à tourner, justement, avec cette manière de travailler, sans savoir si le texte sera dit au bon moment, au bon rythme. Est-ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que certains avaient des oreillettes, que d'autres avaient besoin d'entendre les répliques avant de les faire?
Oui, en fait, c'est surtout sur les scènes, moi, les scènes de joie, les scènes de repas, les scènes tout ça, en fait, je suis pas attaché au texte. Si je leur dis, voilà, là, c'est le repas d'anniversaire, on est dans la bonne humeur, c'est l'anniversaire de Marie, donc après, on laisse vivre le truc. Moi, j'aime bien, quand j'avais vraiment besoin d'aller chercher des textes et des phrases et tout, il y avait des techniques différentes pour chacun. Ludovic, qui est celui qui est chauve, qui dit des insultes, lui, on a découvert que dès qu'on lui mettait l'oreillette, il y avait vraiment un truc de focus et de concentration. Et on le voit écouter l'oreillette, mais sur lui, ça, on s'en fout, ça passe.
Après, Ludovic, il pensait qu'on entendait tout ce qu'il y avait dans l'oreillette. Donc il parlait à l'oreillette. Alice, tu m'entends? Mais non, Ludo, parce que je suis loin dans ma loge. Donc c'était assez rigolo.
Et Arnaud, c'était plus.
Sans balancer le nom, il y a des animatrices et des animateurs qui répondent à leur oreillette aussi. Hein,
ça existe. Ah ouais. Il y a d'autres acteurs qui ne sont pas handicapés qui répondent à leur oreillette aussi.
Donc c'est un réflexe bien naturel. Et pardon, il y en avait un qui perroquet, vous dites.
Non, Arnaud, c'était plus en perroquet. Le fan de Dalida, lui, c'était plus. Ouais. Des fois, quand il stresse un peu, il a la pâteuse, il a un peu plus de mal à parler. Donc on a pris le temps, on est allé chercher les phrases tranquillement.
Mais c'était pas dur. Il y a aucun moment, on a subi le truc. Au contraire, c'était parfois un peu laborieux sur des trucs et tout, mais
c'était tellement naturel. Je me demande si vous n'avez pas tourné en permanence.
Mais en fait, c'était ce que j'avais demandé.
Sans qu'il y ait moteur, sans qu'il y ait coupé.
J'avais demandé à ce que les caméras soient toujours un peu là et qu'on puisse aller choper des choses. Il y a plein de choses qu'on est allé un peu voler aussi, entre guillemets, notamment le moment où Marie parle. Oui. Elle s'ouvre et qu'elle dit qu'elle a été abandonnée, qu'elle machin. Ça, c'était pas prévu, en fait. Mais on était sur le coup et on l'a chopé. Mais il y a pas mal de moments comme
ça. Il y a des moments drôles, j'imagine, qui sont.
Et il y a quelques moments drôles dans le film.
Justement, qui sont complètement improvisés. Arnaud, quand Marie s'approche de lui, qui dit je peux pas, qui se lève, qui monte l'escalier.
Non, ça, c'est du jeu. Après, le fait qu'il tende la jambe. Non, ça, c'est lui. C'est lui, on sait pas pourquoi.
Il pleurait de rire.
Et au début, il était pas dans le montage. Je me suis dit, mais si, parce qu'en fait, c'est tellement lui. Ça veut rien dire, mais c'est tellement lui.
La scène de la pâte à sel, moi, pour le coup, je pense que c'est un des plus gros fours de ma vie. Hein. Je me suis rendu compte que tout le monde bouffait de la pâte à sel et qu'en fait, fallait gérer des trucs et tout. On a ri.
Mais le ton de la voix très maternelle, c'est de la pâte à sel.
Parce que je descends deux octaves pour pas péter. Parce que je vois Clovis qui ferme les yeux, je voyais deux larmes couler comme ça. Et je voyais que son ventre bouger pour. C'était.
Parce qu'elle a dit, faut pas, on mange pas la pâte à sel. Et là, il y a Ludo qui vraiment. Qui dit, c'était pas prévu, j'en ai pas mangé, moi. Et qui vraiment, ça veut tout dire. Ça veut dire, je viens d'en bouffer 7 kilos, tu vois. Et vraiment, il nous l'a dit, mais avec une sincérité. Mais après, il y a des moments. Tu vois, tu parlais de ce truc qu'on a chopé. Marie, qui est le personnage qui se prend des trucs dans la tête.
Quoi qu'il arrive.
Mais dans le foot.
Quel que soit le jeu, elle prend.
Oui, mais tu vois, le ballon.
L'objet dans le visage.
Elle se prend.
Il n'est pas prévu. On tourne une partie de foot, je dis je veux des moments de vie, du foot, je le mettrai je sais pas. Et là, il y a Gad qui prend la balle, qui met un énorme shoot, ça part sur qui? Sur Marie, en plein dans la gueule. Et là, vraiment, j'ai eu ce truc de réal, tu vois, c'est super, voilà. Mais elle a peut-être mal, on s'en fout, tourne. Oh. Et après, on est allé checker, elle avait rien, voilà. Mais vraiment, celui-là, il était en plus. C'est la plus belle des étoiles parmi les autres. Yann sur France Inter, on aura tout vu, ça y est.
Clic, clic, pan, pan.
Non, je la connais par cœur. Je sais que le passé, c'est le passé.
Mais entre nous, je peux pas dire ce qui s'est passé. On l'entend beaucoup, Yann, c'est le cliquipompant dans le film. On a aussi beaucoup d'Alida. Il y avait une belle fille. Évidemment. Qui avait peur d'aller prendre son bain. Et non seulement on l'entend chanter, mais on l'entend parler. Et on entend Dalida citer du Saint-Exupéry.
Au début.
Ouais.
C'est formidable.
Saint-Exupéry.
Ouais.
Plus précisément.
C'est vrai.
Oui, parce que je cherchais un truc pour démarrer le film.
On ne voit bien qu'avec le cœur.
Ouais, et je suis tombé sur cette interview d'elle et je trouvais que la phrase était jolie et qu'elle lançait bien le film. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora.
C'est un film où on rit énormément, c'est un film qui fait du bien d'abord parce qu'il y a des images qui sont belles. Là, je salue aussi la réalisation parce qu'il y a un super boulot. Il y a un truc que vous aimez, ce sont les travelling arrière impressionnants, que ce soit dans le car ou dans la nature, c'est-à-dire partir du fond du car et faire ce travelling
entre
arrière,
les sièges.
Entre les
plus,
sièges,
j'aime bien les challenges.
Techniquement très impressionnant, ou partir de l'écorce d'un arbre pour finir sur la planète Terre carrément. C'est extrêmement impressionnant et bien réalisé.
Merci.
De ce côté-là, bien joué aussi. La lumière est formidable. C'est Jean-Marie.
C'est Jean-Marie Drejou. J'ai eu la chance qui est le chef opérateur de Jean-Jacques Hanau. Et, voilà,
et c'est un film lumineux, c'est-à-dire vous vouliez qu'il soit chaud, quoi.
Ah ben je voulais de la chaleur, je voulais du soleil, je voulais de la couleur, parce que j'ai l'impression que pareil, tous les films qui traitent de ces sujets-là sont toujours dans le nord, sont toujours, il faut rajouter un côté.
Il y a un côté, c'est vrai,
je suis désolé.
Il y a du soleil dans le nord.
Non, il n'y a pas de soleil dans le nord. À un moment, on va se dire les choses. Non, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours rajouter un truc. Dès que c'est un sujet triste, il faut rajouter un truc de tristesse et de. Et là, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'un film joyeux. J'avais envie de. L'inspiration, c'était vraiment, voilà, nos jours heureux. J'avais envie de ce truc où on a envie d'être
ouais,
avec eux.
Ouais, la vraie colonie de vacances.
Ouais, à la fin, on a envie d'être avec eux.
Exactement. Et puis il y a des moments aussi où on a des frissons et des larmes. Murrayhead.
Le dernier jour de tournage, on s'est retrouvés dans la voiture avec Jean-Marie et Arthus. On rentrait à l'hôtel et il nous a mis cette chanson. Je sais pas, on devait avoir 40 minutes de route. On s'est pas dit un mot et on entendait juste. Comme ça, on était tous les trois à chialer comme des bébés. C'était assez joli, ça m'émeut encore moi quand j'y pense.
Ouais. Non, d'abord, la chanson est extrêmement belle, mais surtout elle est bien choisie.
Et puis on venait de vivre un truc incroyable, cette chanson elle nous a vachement porté. Ouais.
Et parce qu'en plus à la fin elle repart.
Elle monte, ouais, c'est
moi,
ça.
C'est ça que j'aime bien, c'est que je voulais terminer quand même sur un truc.
Ça sera le 1er mai au cinéma, ça s'appelle Un petit truc en plus avec Arthus, Alice Bélaïdi, Clovis Cornillac, Marc Rizzo, Céline Broussard, Gad avec Assis, Ludovic Boul, Stanislas Carmon, Marie Collin, Thibaut Conan, Mayanne Sara, Elbaz, Théophile Leroy, Boris Pitoef, Sofiane Rib, Arnaud Toupance et Benjamin Vandeval. C'est un film, encore une fois, je le redis, intelligent, doux et très émouvant. Et ce moment-là aussi est particulier dans cette chanson. Avoir dans le cinéma.
Oui, parce que celui-là, avant, il y a ce côté très mélancolique, ouais. Des machins, et celui-là, c'est allez. Je trouve qu'il a un côté libère. Elle est parfaite, cette chanson, pour la fin. C'est vraiment.
C'est un film qui va vous faire du bien. Il sort le 1er mai au cinéma. Ce petit truc en plus signé Arthus avec Alice Bélaïdi et Clovis Cornillac, entre autres. Et voici Tristan Lopin.
J'ai une bonne nouvelle.
Enfin.
J'ai appris un truc qui m'a rassuré pendant les vacances. Moi qui avais l'impression de faire beaucoup de mauvais choix dans ma vie de manière générale, j'ai trouvé quelqu'un qui en fait plus que moi. Alors non, je parle pas d'Amélie ou d'Acastera, pardon, d'Anne Hidalgo ou des goûts de Nagui en matière de chaussures. C'était gratos. Je parle d'Emmanuel Macron dans le top des décisions de merde. Ça commence à faire un petit moment qu'il squatte le sommet des charts, comme le disait Charlie Lulu à l'époque du Hit Machine. Et visiblement, il n'a pas prévu de lâcher le haut du podium. Le 11 avril, avril dernier, notre président de la République a donc choisi de remettre à Thierry Ardisson la Légion d'honneur parce qu'il le considère comme un, je cite, déchiffreur de modernité avec des moments de liberté à jamais gravés. À jamais gravés, surtout dans l'esprit de Lara Fabian, les cheveux de Stéphie Selma ou encore les larmes de Christine Angot pour ne citer qu'elle, qui se souviendront surtout du body shaming, de la misogynie ou du mépris subi par la romancière lorsqu'elle est venue sur son plateau présenter son livre « L'inceste ». On rajoute à ça que notre président, toujours à l'affût des bons plans, a également décidé de faire de Michel Sardou un grand officier de l'Ordre National du Mérite au mois de juin. Ce même Michel Sardou qu'on connaît depuis un certain temps, plus pour ses sorties d'oncle gênant alcoolo antiféministe que pour ses nouveaux morceaux. Faut dire qu'il nous a déjà tellement régalé avec certains des anciens « Le temps des colonies » ou « Être une femme » étant les chansons les plus écoutées de ma playlist Spotify. Wow. « Désir de déconstruction ». Mais alors, ce qui est le plus drôle, puisque malgré tout, Michel Sardou a quand même depuis de nombreuses années participé au rayonnement de la culture française à travers le monde, c'est la vraie raison qui a été donnée pour légitimer cette récompense. D'après le Nouvel Obs, l'entourage du président justifie ce choix parce que le chanteur a su diagnostiquer des décennies avant Michel Houellebecq le mal-être masculin dans ses textes.
Mais non.
Ce fameux mal-être masculin qui ronge notre société matriarcale depuis tant d'années. C'est donc peu de dire que notre président a vraiment le compas dans l'œil en ce moment, mais alors bien profond, et puisque je pense qu'il n'y a pas que ça à ce niveau-là, pense qu'on peut carrément y trouver le rapporteur qui va avec, une équerre, une règle et l'ensemble du contenu d'une trousse d'un gamin de 5e, hein, tout en sachant que c'est le même président de la République qui, il y a quelques mois, dénonçait en direct à la télévision une chasse à l'homme à l'encontre de Gérard Depardieu, dont il considérait qu'il rendait fière la France. On fire le Manu, très très en forme. Le même président dont la grande cause du quinquennat, ai-je le rappel, les violences faites aux femmes. Niveau timing, on est donc tout bon. Après, pour être à même de traiter un sujet, on dit qu'il est préférable de se sentir directement concerné. Donc maintenant qu'il a bien craché à la gueule de toutes les femmes, il va enfin pouvoir se mettre au boulot. Mais attention, sans lui mettre trop la pression non plus. Hein, en juillet 2017, il avait annoncé que plus personne ne dormirait dehors d'ici la fin de l'année. Bon, 2024, il y a toujours des tentes partout sous les ponts, sur les quais ou le long du canal Saint-Martin. On peut plus faire un footing ou boire son latte matcha lait d'avoine sans avoir la misère du monde devant les yeux. Franchement, c'est un enfer. Non, vraiment, vivement que tous les SDF soient envoyés en région pour les Jeux Olympiques, parce que là, ça commence à faire un mauvais genre. Et puis vivement que tous ces décisionnaires aillent se baigner dans la Seine avec un peu de chance et de courant. Ça nous laissera un peu de répit. Et puis eux, le temps de se réfléchir un peu les idées.
Merci.
Allez. Et Tristan Lopin.
Aussi dans quelques instants. Voilà. Tristan Lopin.
Qu'est-ce que c'est?
Mais je fais un coming next.
Ouais, ok, très bien. Tristan Lopin, ce soir, tu seras à la boule.
Exactement.
Mm-hmm. Oh, la classe. Vous êtes éclaté sur la BO du film.
En fait, j'ai mis plein de trucs qui me font.
C'est votre playlist Spotify, vous êtes
dit. Ouais. Ça, Bob Azam, pareil, c'est Beyrouth, l'été.
Il y a aussi. Il y a deux titres. Hein, et du Dalida, vous l'avez compris, on va parler de la musique dans vos vies. Tous les deux, que ce soit Artus ou Alice Belaïdi, puisqu'on va écouter la bande originale de vos vies. Et puis tout à l'heure, nous recevons Ludivine Munoz, puisque vous êtes donc, je l'ai dit, parrain des Jeux Olympiques, des Paralympiques, qui auront lieu à la fin de l'été. C'est du 28 au 8 septembre, c'est ça ?
Septembre, début septembre.
On en parlera tout à l'heure, notamment. Elle est ancienne paranageuse et elle a 12 médailles paralympiques, 14 mondiales. Ouais, ouais, genre.
Pas ouf,
peut mieux faire. Hein.
Par rapport à vous, non,
ouais, c'est
ridicule. Ouais, c'est ça.
12.
Mais d'abord, on va commencer en 2010. Alice Belaïdi, vous écoutiez. High Tech Save, quoi cette musique pour vous?
C'est j'ai fait plusieurs fois votre émission, c'est marrant d'essayer de repartir dans les années, taper des dates dans sa playlist parce qu'il y a des trucs qui reviennent.
Et bien non, forcément, il y a des images, on se revoit à un endroit en train d'écouter.
Talib Kweli, c'est ma porte ouverte au rap américain aussi quand je suis plus jeune, avec des mecs comme Mos Def, comme ça, qui m'ont vraiment. Ça m'a élevé de ouf, quoi.
Vous écoutez la musique pour danser? Vous écoutez la musique
j'écoute
pour.
De la musique pour tout. Ouais.
Faire du sport?
Ouais, pour, tout, tout est prétexte à écouter de la musique.
Et 2010-2011, c'est une statuette en main sur la scène des Molières.
Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, ouais.
Confidence à Allah.
Ouais,
ouais.
Un Molière complètement inattendu, vous.
Ouais, petit syndrome de l'imposteur, et toujours, encore et toujours, mais ça fait un très bel objet de déco dans la bibliothèque.
et un objet de fierté pour les parents.
Bah, ouais, les parents, ouais. Bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est le Molière, c'est un très bon souvenir, mais en même temps. Ouais, c'est pareil, ça te dépasse ces trucs-là, parce que entre toi, la crédibilité que tu mets, et ouais, puis voilà, ouais. Et puis au final, ce que ça représente pour les autres, qui te donne un prix comme ça, prestigieux. J'ai toujours eu vachement de recul vis-à vis du.
Ouais, mais c'est
regard,
classe quand même.
Mais sur moi, c'est très classe. Ouais. Mais bon.
Qu'est-ce que vous avez dit sur scène ce jour-là, vous vous souvenez?
Non, je sais pas, parce que j'étais en grosse crise de spasmo juste après. De toute façon, je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais. Oh, je gère très bien mes angoisses, moi.
En 2010-2011, Arthus, vous écoutiez. Mathieu Chédid et Vanessa Paradis, qui sont des amis de Gaëtan Roussel.
Ouais, mais j'aime bien.
La scène, c'est pour la BO du film ou c'est pour la natation olympique?
Non, c'est parce que c'est le début. C'est Avignon, justement. C'est mes premiers. C'est la découverte avec la scène un peu forcée, mais parce que c'est mes parents qui m'ont pris une salle au Festival d'Avignon, qui m'ont dit t'as plus qu'à écrire un spectacle, vas-y, démerde-toi.
C'est fou
parce
quand même.
Parce que pour moi c'était un hobby, c'était pas un métier. Et donc ils m'ont poussé sur scène et ils ont fermé le rideau derrière moi.
Et vous avez tracté, vous avez fait les terrasses, vous avez
fait. J'avais un petit tricycle. J'avais un petit tricycle avec un panneau en bois où j'avais collé mon affiche. Ça s'appelait Arthus va jouer sur l'autoroute, ça s'appelait. Où je parlais de mes années d'animateur avec les enfants. Et voilà. On essayait déjà de piquer un petit peu à l'époque.
Vous avez été animateur longtemps?
J'ai été animateur, trop longtemps. Trop longtemps de
pour les enfants, trop longtemps. Ouais.
Non, pour moi, parce que tu es en fait.
C'est fatigant.
C'est pas fatigant, mais c'est frustrant. Il y a un côté un peu, je trouve, par rapport au budget qu'on a, par rapport au truc. Mmh. En fait, on a envie de faire beaucoup pour les jeunes et tout, et on sent qu'il y a un truc un peu, et encore plus si on parle du handicap, encore plus.
Mais... On se sent quoi, démuni face à la lourdeur de l'administration, face à tout ce qu'il faudrait faire et qu'on n'arrive pas à faire.
Ben, c'est même pas ça, c'est pas juste par rapport au salaire qu'ils ont, quand on est même responsable de colo, machin et tout. En fait, c'est vraiment un métier qui est destiné qu'aux jeunes, mais il y a un moment, tu peux pas en faire ça toute ta vie, parce que t'es payé une misère, quoi.
Donc la société n'est pas reconnaissante pour
non,
les aidants.
Alors qu'on leur confie des gamins de tout âge, ils ont 30 gamins à 3, ils ont 18 ans, les gars. Ouais, et puis moi, j'avais 18 ans, j'ai même eu des gosses de 16 ans, 17 ans. Donc c'est quand même très particulier. T'es l'animateur et t'as. Et puis t'as des filles qui ont 2 ans de moins que toi, donc t'as...
Non.
Donc si,
non,
c'est un bon public.
T'as le droit.
C'est un bon public aussi. Est-ce que c'est un public justement l'animation pour jouer, dans l'interaction,
pour tester des vannes,
mais c'est développer une capacité à être toujours dans l'interaction, la répartie. Vous avez une répartie de ouf, vous, Arthus.
C'est gentil. J'essaye, mais en tout cas, j'espère être l'animateur un peu cool qui fait des vannes. Et voilà, j'étais pas celui de façon qui jouait de la guitare.
Les vannes. Voilà, ce que j'allais dire. Les vannes, c'était pour compenser quelque chose?
Bah oui, clairement, la guitare. La guitare et le feu de camp. Ouais.
En 2016-2017, Alice Belaïdi, vous écoutiez Mac Miller.
Putain, mais t'as fait une belle playlist.
Ah ouais, elle est belle.
T'es allé chercher des trucs un peu pour
Et c'est votre période Bureau des légendes à tous les deux, d'ailleurs. Alice, vous acceptez de jouer dans cette série qui est devenue quand même une des séries références françaises sur le monde des espions et des renseignements français.
C'est là où vous êtes rencontrés tous les deux?
Non,
on s'était rencontrés
sur Budapest.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on vous propose de jouer dans le Bureau des légendes?
Une fille de Daesh. Après, franchement, honnêtement, j'ai quand même fait très attention, moi, depuis le début, à pas rentrer dans le rôle de l'arabe de service, parce qu'on a tendance quand même à mettre vite des étiquettes quand on est d'origine maghrébine. Et avec mon agent, on a fait gaffe quand même à vraiment se dire, ah, celui-là, on va pas y aller. Et là, c'était la première fois qu'on me proposait un rôle cliché, entre grands guillemets, mais qui avait du sens, qui racontait quelque chose, qui était pas manichéen, c'était pas les gentils contre les méchants. On essayait d'aller plus loin dans la réflexion, et j'ai vachement aimé tourner ce personnage.
Comme quoi, quand il y a un peu de nuance et de profondeur, les choses
peut tout faire,
passent.
En fait. Exactement, bien sûr. Ouais.
Arthus. Alors moi c'était vraiment le rôle du gros de service pour le coup aussi. On était aussi sur du rôle très cliché. J'étais l'obèse de la DGSE.
Ben non, mais faut le dire. Il y a un moment, je suis désolé, ma première scène, c'est quand même nous, les gros, on chie. Si. En vrai, je suis très content d'avoir fait ce rôle, mais c'était quand même tous les gens qui ont été castés, c'était tous les gros de Paris. Si, si, donc pareil, moi je m'étais posé la question de me dire « Ah cool, un rôle de gros hein !» Puis au final, tu le fais parce que le rôle était chambé, mais oui, c'était quand même encore un rôle de gros.
Puisque vous parlez de votre physique, l'humour était aussi une forme de protection par rapport à ça, c'est-à-dire de s'auto-vanner, d'être en autodérision sur votre taille, votre poids, votre masse musculaire en ayant joué au rugby, enfin d'être dans l'autodérision permanente plutôt que d'essuyer des vannes.
Ben oui, déjà parce que voilà, comme dirait Cyrano, je me les sers moi-même avec assez de verve, mais ne permet pas qu'un autre me les serve. Mais en vrai, oui, je pense qu'il faut, même pour pouvoir vanner les autres, il faut que je fasse des vannes sur moi. Moi, j'ai envie de pouvoir faire des vannes sur tous les sujets, sur toutes les communautés, sur tout le monde. Donc si je me vanne pas moi, il y a un côté un peu... Bah, pourquoi tu vannes les autres et pas toi? Donc, ça me paraît normal, en fait.
Il faut aussi accepter les vannes des autres sur
bien
soi.
Bien sûr. Non, mais je les accepte. Il n'y a aucun problème. Et je me suis jamais vexé d'aucune vanne.
Oh bah, vous êtes resté 4 ans sans me parler, quand même. Hein vous écoutiez en 2016-2017, vous écoutiez.
C'est très drôle. Mais non, mais du coup, c'est parce que la BO du bureau, elle est quand même folle. Cette musique, je trouve qu'elle est dingue.
Eric Rochon à la réalisation, quand même. Hein. Faut rappeler cette série qui est...
Et vous jouez un analyste de la DGSE. C'est vous qui avez sollicité la production pour ce rôle?
Ah bon?
Ouais.
Non.
Ah bon, c'est eux qui...
Voilà. Vous avez voulu coucher avec tout le monde?
Ouais.
Ah non, j'ai sucé 2-3 personnes de l'équipe. Ah, ça, c'était vraiment par plaisir. Il y avait aucun...
Non,
c'était pas du tout professionnel. Non, c'était pas pro du tout. Non. Non, c'était par passion.
En même temps que vous faisiez Danser avec les Stars, en fait.
Oui, en fait, je faisais...
Même période.
Non, en fait, c'est ça, c'est que j'ai accepté... J'ai passé le casting, et vraiment, en plus, en me disant, c'est mort. Je fais... Je sors de chez Ruquier, machin, ils vont jamais me prendre.
On demande qu'à en rire.
Voilà.
Parce que je sors de chez Ruquier, il y a plein de mecs qui peuvent le dire.
Il y a les
grosses têtes.
On te suit pas, là, du tout. On te suit pas du tout, là.
C'est sale.
C'était pas bien.
Bref, je sors de l'émission.
Ok, donc il y a que certaines personnes qui vont faire des vannes.
Donc je sors de l'émission de Laurent Ruquier, on me demande quand même, et je me dis, en plus, pour le coup, c'est moi qui pour une fois me mets une barrière en me disant ça sert à rien, c'est une série Canal hyper hype machin et tout, jamais de la vie vont prendre un mec qui a fait On me demande quand rien. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que Rochon et Antoine Chevrolier, d'ailleurs, qui était le co-réalisateur avec qui je fais le film là, La Pampa, qui va à Cannes, voilà. Et c'est lui qui, en fait, il savait pas qui j'étais, il s'en foutait, et surtout, il voulait juste l'acteur qui correspondait au rôle, sans se soucier de ce que j'allais faire.
Sans préjuger.
Ouais. Et du coup, c'était, voilà. Et après, du coup, j'ai pris le bureau, j'ai accepté Danser avec les Stars, parce que je me suis dit, ok, Danser avec les Stars, ça va me flinguer au niveau du cinéma, on va pas se mentir. Le bureau des légendes, ça va me remettre là-haut.
Mais pourquoi avoir fait?
Donc, je vais être à zéro. Pour l'oseille. Danser avec les Stars, on va pas se mentir, hein, c'était pour ça. Non, pour ça et pour la notoriété et pour ce que ça a amené. Et parce qu'il était dans une époque où.
Et c'est pour le faire avant Ines Reg, sinon c'était pas.
Voilà. Non, mais il y a un côté, t'as peur de disparaître en vrai. Quand tu démarres, tant que t'es pas.
Vous ne le referiez pas aujourd'hui.
Aujourd'hui,
non, vous n'avez pas besoin de ça.
Je referai le bureau des légendes, mais je referai pas Danser avec les Stars. Mais en même temps, j'ai rencontré ma femme, donc je suis très heureux de l'avoir fait pour ça.
Puisqu'on parle du regard des autres, Ludivine Munoz vous a rejoint et on va en parler de ce regard des autres. Bonjour Ludivine.
12 médailles.
Ouais, 12 médailles seulement. C'est honteux.
C'est
14 mondiales, une vingtaine de titres européens. Vous avez été amputé du bras et de la jambe droite à votre naissance. Lorsqu'on franchit les obstacles de la vie, mais au-delà, parce que je ne sais même pas comment on peut dire, ça ne s'appelle pas franchir les obstacles de la vie, faire ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est un dépassement de soi et un dépassement même de nous tous autour de cette table. C'est-à-dire que vous nous mettez minables dans une piscine, on est d'accord?
Alors bonjour à tous. Alors oui, quand on n'a pas d'humour, du coup la seule solution, c'est l'exploit sportif, qui était aussi pas mal.
Ouais, c'est
une des solutions aussi. Oui, je pense que c'est comme ça, moi, que j'ai rencontré la natation. C'est-à-dire que j'ai découvert ce sport, j'aimais beaucoup l'eau. J'ai des super qualités de nageuse, faut quand même se le dire, je flotte hyper bien. Et parti, voilà, ça aide quand même. Et parti de ce constat-là, j'ai rencontré Handisport, ma fédération.
Ouais.
Et heureusement pour moi, je suis arrivée juste après les Jeux Paralympiques de Barcelone 92, et ils m'ont tous fait briller les yeux sur la vie extraordinaire qu'ils venaient de vivre. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et comment mettre toute cette colère et cette envie d'enfoncer les portes dans l'eau? Et c'est vrai que ça a bien marché.
C'est joli cette phrase, c'est-à-dire que la colère est un moteur.
La colère est un moteur.
Du dépassement, en disant non, je lâche rien, je vais y arriver.
Je vais faire autre chose que simplement dans ma galère où à chaque fois qu'on veut faire un sport, quand je suis arrivée en sixième, on me dit ben non, le sport c'est pas fait pour toi. Mmh. Au moins parce que tout le monde court à l'échauffement et c'est un peu mon déficit. Je nage très vite, je marcherai pas autant que ce que je nage aujourd'hui. Mais voilà, donc ça c'est important et c'est comme ça que je me suis dit ben pourquoi pas essayer. Et quand on a pas mal de colère en soi à l'adolescence, hein, comme tout enfant, il y en a qui ont des complexes de leurs genoux, de leur taille, de leur poids. Moi c'était le handicap. Ben,
tous les ados ont une colère. Exactement. À un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait ?
Voilà, moi ça m'a été un moteur pendant des années et qui m'ont permis de dépasser la douleur ou au contraire dépasser la peur.
Mais d'où ça vient ce côté on ne lâche rien ? D'où ça vient le fait de ne pas se dire à un moment donné je laisse tomber, je suis fatigué, ça me saoule ?
Ah bah l'envie de faire quelque chose, l'envie de se dire qu'on arrête de me regarder. Moi à cette période, ce qui était important pour moi, c'est qu'on se retourne pas dans la rue parce qu'il me manque un bras et que j'ai décidé de me mettre en short ou de porter des bretelles et une jolie petite robe, mais qu'on se retourne pas dans la rue en disant regarde maman, la demoiselle a pas de bras, elle a pas de jambes, mais plutôt oh regarde, c'est la championne paralympique que j'ai vue dans l'article la semaine dernière qui vient de remporter une énième médaille au jeu.
Donc là aussi, le regard des autres était un moteur.
Oui.
Détail charmant, celui de s'habiller. Tout le monde se pose la question du regard des autres quand on se fringue. La première chose que l'on fait quand on achète même un vêtement, c'est se regarder dans une glace, comment ça va. Cette question, on se la pose aussi sur comment s'habiller quand il nous manque un bras, une jambe.
Oui, mais alors on s'habitue à notre regard de nous-mêmes. Donc finalement, on se voit plutôt nous-mêmes et on ne voit pas par rapport aux autres. Donc on s'habille plutôt comme on se trouve jolie. Et après, aujourd'hui, c'est là que ça a énormément évolué et c'est les Jeux paralympiques en font partie. C'est comment on est capable de transformer justement la visibilité des belles prothèses aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont avoir une prothèse pour le sport, une prothèse pour se marier, une prothèse pour décorer, une prothèse pour faire du ski. Donc on voit vraiment que ça a changé. Et aujourd'hui, la prothèse est devenue un outil d'esthétique. Et Arnaud Assoumani, qui fait du saut en longueur et qu'on va retrouver aux Jeux paralympiques, lui, il utilise sa prothèse du bras comme un élément d'esthétique.
C'est la première fois que Paris accueille les Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques, oui, déjà, mais paralympiques, c'est la première fois.
Oui, et justement, c'est ça qui est très important, c'est de les faire connaître auprès de l'intégralité du public, parce qu'aujourd'hui, on ne cite pas trop de femmes championnes paralympiques demain, mais alors des athlètes paralympiques, c'est encore pire. On n'a pas tous les dates en tête, on a dit 28 août au 8 septembre, c'est important, cérémonie d'ouverture à l'extérieur, et c'est important de transformer le regard de la société.
Pourquoi cérémonie d'ouverture à l'extérieur ?
Tu peux pas.
C'est quoi à l'extérieur ? Pardon. Non.
Alors l'idée, c'est Paris 2024, dès le début, a voulu traiter autant les Jeux Olympiques que les Jeux Paralympiques. Oui. Cette idée un peu dingue de faire quelque chose de différent, de premier, on a mis la cérémonie olympique au bord de la Seine. Oui. Et la cérémonie paralympique, comme c'est pas que les joueurs de foot qui vont défiler au bas des champs, c'est les athlètes paralympiques et qui vont pouvoir, place de la Concorde, vivre un événement extraordinaire.
Avec ce drapeau, c'est Arthos, comment s'appelle ?
Les Agitos.
Agitos, pardon. c'est Arthus qui me trouble. Et pourquoi comment vous êtes retrouvé parrain d'ailleurs, vous ?
Ils me proposaient d'être relais de la flamme. Et puis, je sais pas si on est vraiment parrain. Je sais pas ce que c'est que le terme, mais moi, en tout cas, je leur ai dit que je voulais plus m'engager du côté des paras que du côté des jeux, parce que je trouve que les jeux, ils sont assez mis en avant. Et voilà. Et ce que je voulais dire au moment où, lâchement coupé la parole. mais je voulais dire qu'en fait, c'est que. Parce que souvent, les gens pensent que les Jeux paralympiques, c'est entre guillemets des sous-jeux, que les épreuves sont moins bien, que machin et tout. Il faut savoir que si on mélange en vrai les deux, au marathon, il n'y a aucun valide qui tiendra
capable,
le poids.
C'est ça,
aux 100 mètres, ça se tient sans problème. Enfin voilà, c'est vraiment pas des sous-épreuves et des sous-jeux. Il y a beaucoup d'épreuves.
549 épreuves, c'est impressionnant. 11 jours de compétition, 22 sports, 23 disciplines, 4400 athlètes. Qu'allez-vous faire ? Comment allez-vous vivre, Ludivine, ces JO ?
On a le défi de les faire connaître. On a une billetterie qui a été lancée en octobre 2023, lors de la journée paralympique avec Arthus. Ouais. Et c'est vrai que c'est super important de continuer à les faire connaître, parce que les gens n'ont encore pas mis dans leur calendrier l'événement paralympique. Mmh. On a encore des billets à vendre. C'est un défi. Donc entre maintenant jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, moi, mon activité, c'est de les faire connaître, de les faire de la promotion et puis de donner envie. Et surtout de ne pas se dire après, si j'avais su, je serais venue.
Parce vous pouvez les acheter où ces places alors ?
Alors sur la billetterie, Paris2024.org, ticketing, la même billetterie que les Jeux Olympiques, c'est important. C'est des billets qui sont des 15 euros. Moi je sais pas, mais 15 euros pour passer une après-midi au Stade de France ou à Roland-Garros, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas accessible au quotidien.
Non, puis c'est un spectacle et c'est extrêmement impressionant.
Impressionnant et puis on parle souvent des sports emblématiques. Mmh. Paranatation, franchement, parathlétisme, basket, fauteuil. Ouais. Là ils ont été qualifiés, ils ont gagné le tournoi qualifié paralympique à Antibes. Les gars, ils sont fauteuils roulants et ils tirent à 3,05 m. Ouais, le shoot, il est incroyable à voir. C'est assez extraordinaire. Donc, il y a vraiment de l'émotion pour tout le monde, avec la même envie de gagner et la même envie de ramener la médaille chez soi.
Ah, elle le raconte bien, Ludivine. Hein. Elle le raconte bien. Respect, en tout cas, et admiration, Ludivine. Merci d'être venue à ce micro, Ludivine Munoz. Je le rappelle, responsable intégration paralympique au comité des JO Paris 2024. 12 médailles paralympiques, 14 mondiales. Elles sont où? Il y a un mur chez vous de trophées?
Alors non, pas du tout. Elles sont surtout disponibles quand on va dans les écoles. On va voir les enfants à la semaine olympique et paralympique. Je les emmène parce que peu de gens touchent du doigt cette médaille. On les voit au musée olympique, mais on ne les voit pas au quotidien. Donc ça, c'est important. Et le reste, elles sont au fond d'une boîte.
Oui, bah, il y a un moment, ouais, c'est ça. Ouais, ah, reste modeste.
Il a trop,
merci.
Ouais,
merci. Ouais. Tout de suite, voici les nouvelles du monde d'Alexis Rossignol.
Bonjour à tous.
Bonjour,
ça va bien, vous allez bien?
Oui, toi?
Ben oui, ça va, c'est ça les vedettes. Des gens qui vont toujours bien. Ou des gens trop uniques pour s'épancher en public. Enfin, parlons plutôt de moi. Hier matin, j'étais à l'Hôtel de France, qui est pile en face de la gare d'Angers. Parce que j'avais un train qui partait à 11h43 de la gare d'Angers, qui, elle, est pile en face de l'Hôtel de France. Ah oui. Angers, c'est la ville la plus agréable de France, et vraiment, je sais pourquoi. À 10h du match, je descends prendre mon petit-déj, j'arrive dans la salle, le personnel est en train d'enlever le petit-déj. Il y a un truc qu'il faudrait éclairer une bonne fois pour toutes. Est-ce que dans un hôtel, quand on te dit « le petit-déj est servi jusqu'à 10h », ça veut dire qu'à 10h, t'es encore le bienvenu? Ou est-ce que ça veut dire qu'à 10h, tu peux te faire cuire un œuf, mais ailleurs? Parce que les œufs sont plus là, en fait.
Des vrais problèmes, quoi.
Ouais, voilà, ça, c'est des vrais problèmes. Parce que j'ai remarqué une constante. De 6h30 à 9h, t'es accueilli avec le sourire. Il y a du respect, c'est la France qui se lève tôt, qui dit à l'autre « salut camarade ». Toi et moi, on est ensemble, quoi. À 9h30, tu deviens suspect. Il y a un côté, on se disait qu'il était pas clair, celui-là. Il serait écolo, qu'on serait pas surpris. Et à 10h, c'est carrément le mépris. Dans les regards du personnel, tu peux dire, ah ben voilà, là le con du jour. Ouais, il descend, tout sourire. Tu vas voir qu'il va nous barrer la 301 à midi 2 et qu'il va embarquer la clé. Et si tu descends à 10h01, hors la loi, au mieux, on te laisse prendre une banane, quoi. Combien de fois j'ai eu droit à la banane, alors que j'aime pas les bananes? Je trouve que c'est un fruit trop sec. Techniquement, le jus de banane, je sais pas comment ça peut exister, quoi. Bon, hier, j'ai eu de la chance, le personnel était sympa. Il était 10h, mais ils m'ont dit, allez-y, installez-vous, on va patienter un peu. J'entre dans la salle, et là, il y a des journaux, dont le New York Times.
Wow, chic.
J'ai rarement l'occasion de lire des journaux en anglais, moi. Donc je me dis, enjoy, Alex. La dame me dit, thé ou café? Je dis, coffee, please. Moi, quand je passe à l'anglais, j'active tout, quoi. Et là, elle me dit, vous êtes anglais? Ben, je dis, non, madame, si j'étais anglais, j'aurais demandé un thé. Les gens ne réfléchissent plus, ça me rend fou. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu le New York Times, où j'ai appris que 23 nageurs de l'équipe nationale chinoise de natation ont été contrôlés positifs, 7 mois avant les JO de Tokyo, qui ont eu lieu en 2021. Les Chinois, ils ont vraiment ce truc de la production en grande série, quoi. C'est au suivant, au suivant, au suivant. C'est du Jacques Brel appliqué au sport. Alors, malgré les contrôles positifs, ils ont participé aux JO de Tokyo. Et ils ont raflé 3 médailles d'or. Exploit inédit pour les Chinois. Et qui scandalise le monde du sport aujourd'hui, parce que l'affaire vient de sortir. Moi, je vois pas où est le scandale, en fait. 3 médailles d'or, 0 d'argent et 0 de bronze pour 23 athlètes dopés. C'est pas ouf, non? En plus, c'est 3 médailles d'or, dont 2 par une même athlète. Ça veut dire qu'il y en a quand même 21 qui ont fait le déplacement, à qui on a filé un équipement. Bon, en natation, ça va, un slip, ça ruine pas un pays non plus. Et qui sont revenus sans rien, quoi. Tu dois avoir les boules quand t'es entraîneur. Regarde-moi, c'est branque, là. On les charge comme des mules et ils reviennent avec quoi? 3 médailles. Mauvaise stratégie. D'autant qu'en natation, gagner, c'est bien. Mais il y a d'autres façons de marquer les esprits. La vidéo vraiment mythique de la natation mondiale, ça reste le nageur de la Guinée équatoriale. À Sydney en 2000, ouais. Eric Moussambani. Celui qui était seul dans la piscine, qui nageait la tête hors de l'eau et qui a eu du mal à gagner, quoi. Ça, la pipe au miel et le candidat qui répond la mer noire à question pour un champion, et t'as un bêtisier qui tient la route à Noël. Alors pour en revenir au sujet et terminer cette chronique, parce que je suis fatigué. Finalement, le scandale, c'est surtout qu'ils ont été couverts par la fédération chinoise, qui a dit que le produit dopant venait de la nourriture servie dans l'hôtel où l'équipe séjournait, et qu'ils l'ont consommé à leur insu. Il vous arrive beaucoup de choses à votre insu, vous. Parce que si on peut trouver un défaut commun aux sportifs, c'est quand même qu'ils ont vachement la tête en l'air, quoi. Alors, plusieurs des athlètes testés positifs en 2021 seront restés à Paris cet été. Alors, pour qu'ils évitent de se doper accidentellement et malencontreusement, moi, je leur recommande de prendre le petit-déj à 10h01. Parce que la banane, il semble que c'est pas dans la liste des produits dopants.
Merci, Alexis. Il est où et quand, Alexis?
Et Alexis, demain soir, à Decazeville, dans l'Aveyron, et à partir de septembre, à la Gaîté Montparnasse, à Paris.
Tanguy Passureau nous a rejoint. Ouais. Tanguy, de quoi vas-tu parler dans la dernière demi-heure?
Eh ben, de 4-5 cons. Alors, vous allez me dire, c'est large, parce qu'il y en a des cons. Mais ces cons-là ont retiré des ours d'un arbre, juste pour prendre des selfies avec eux. C'était aux États-Unis. Et la mère, on n'a pas voulu après, évidemment.
Waouh!
Eh oui.
Et
la plus belle des étoiles parmi Merci. Les autres, je vois que toi, tu te sens seule, dis-moi, il reste une place auprès de moi.
Le film s'appelle Un petit truc en plus. On vous encourage à le voir en famille, parce que il a des vertus d'éducation et de transmission aussi, et de valeurs pour les enfants. Au-delà de ça, en plus, vous avez passé un bon moment. C'est un spectacle. Ça reste du cinéma, du grand cinéma à voir, avec ses lumières, cette réalisation, ses travelling et ce jeu surtout de ces acteurs, où c'est encore plus remarquable de jouer juste Artus, Alice, Clovis, quand on a des acteurs sans filtre qui risquent toujours d'être encore plus justes, parce qu'ils ne cherchent pas à interpréter, ils sont comme ils sont.
Ah bah ils sont forcément plus justes que nous, puisque eux ils jouent pas. Mais d'ailleurs parce que c'est pas des acteurs. Je voulais pas des acteurs, je voulais des personnalités. Et je voulais vraiment que ça soit eux. Donc
dans leur propre costume, dans leur propre personne.
Ouais, c'est ouais. Tout ce que les gens vont voir dans le film, c'est réel. Et c'était une façon déjà de les faire jouer eux sans jouer. Et aussi de me protéger, parce que si on vient me dire « Trouve pas qu'un gars qui met 50 déguisements dans un film, c'est beaucoup », je dirais bah, « C'est ses déguisements à lui et il est comme ça, donc allez lui poser la question. »
Vous avez vu, tout le monde a la tête qui bouge, hein, sur
l'équipe.
C'est
clic-clic-clampant.
Après, quand c'est bien écrit.
On est transporté.
À suivre jusqu'à midi et demi, donc nous parlons d'un petit truc en plus. La bande originale avec Mélodie Fontaine, Tristan Lepin, Alexis Rossignol, Tanguy Guy Passureau et nos invités Alice Belaïdi et Artus. Oui. Avec ce film donc qui sort ce 1er mai, un film solaire dans tous les sens du terme, déjà pour la lumière, mais aussi pour le message humain qu'il fait passer. Première réalisation d'Artus, avec un casting qui a été fait, que vous avez fait personnellement, j'ai vu au générique. Pardon, il y a un autre nom que le vôtre, mais il y a marqué casting, il y a un nom et le vôtre. Vous étiez au casting?
Oui, parce que c'est surtout pour la partie comédien un peu atypique. Et parce que je voulais les caster avant de finir l'écriture pour vraiment écrire sur eux.
Vous avez passé une annonce sur Insta, c'est ça ?
J'ai passé une annonce sur Insta en disant voilà, si vous avez un petit truc en plus, si vous êtes éducateur, si vous avez dans votre famille quelqu'un. Et donc j'en ai vu pas mal. J'avais pas mis en plus de barrières de handicap, donc j'ai vu de tout. Des handicaps très lourds, d'autres plus légers, voilà. Et vraiment, et après, on a fait la meilleure équipe.
Et le casting d'Alice Belaïdi, de Clovis Cornillac,
ça c'est les trucs d'agent m'a imposé, c'était vraiment pas choisi quoi. C'est vraiment on m'a dit il faut une fille
avec une tête un peu drogue,
il me faut.
Moi après on m'a dit c'est cool, tu vois, un film avec des handicapés, ça va monter ta cote et tout. Donc j'y suis allée mais sans grande conviction.
Non, c'est que pour votre image personnelle, c'est réussi. On l'entend votre discours, ça va.
Non, mais c'est que des gens avec qui j'ai déjà tourné. Et je savais que ça allait bien se passer parce que j'avais besoin d'acteurs qui savent jouer, qui savent improviser et qui sont pas des acteurs dans le sens dans le mot péjoratif de l'acteur, qui sont pas genre mon café un peu princesse et, voilà et du
après
coup,
c'était un peu léger en termes de café encore,
Non mais ça a vraiment été des alliés, c'est-à-dire dès que je me suis pas occupé d'eux et ça m'a vraiment permis de me concentrer sur les autres acteurs et donc ça je pouvais pas avoir de meilleurs alliés que
c'est pas
que
vrai il dit ça mais c'est très bien, c'est très bien occupé.
Qu'est-ce qu'il y avait de plus agréable et de plus difficile? Les deux excès. Alors commençons par le plus agréable.
Je sais pas, un truc le plus agréable, je sais pas, peut-être le fait d'être isolé comme ça dans le Vercors ensemble. C'était un peu le film dans le film, d'être un peu vraiment dans la colo.
Sans réseau.
Ouais, sans trop de réseau, ça fait du. En fait, ça faisait du bien.
On ça, était, c'est le truc agréable.
Ouais, c'était pas mal, ouais. Je me suis moins embrouillée avec mon mec.
Ah ouais.
Et de pas le voir,
ça marche
pas. De toute façon, je n'ai pas de mec.
C'est pas le mais on verra dans le film ce qui se passe avec votre mec.
Ça, c'était vraiment super. Après, les rigolades, le lien, voilà, tout ça, c'était très, très fort. Le plus difficile. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi?
Peut-être d'empêcher Ludo d'aller à la table régie.
Ouais, voilà, peut-être d'empêcher Ludovic de bouffer 8 kilos de bonbons, parce qu'après il me disait, allez, j'ai envie de faire caca. Et du coup, et que je gère, que j'étais quand même l'éduc.
Parce qu'il n'a pas de satiété, Ludo.
Ouais, il n'a pas de satiété, sentiment de satiété. Ouais. Donc. Puis il a vachement de frustration, parce qu'en fait, la table régie, ça passait avec des sandwichs.
Et pardon, puisque vous parlez du caca, quand vous demandez à Artus s'il a envie de faire caca, j'ai tellement pleuré de rire à ce moment-là.
C'est la scène où, de toute façon, c'est cette scène-là.
Vous n'avez pas pu la faire?
C'était terrible. J'ai chialé de rire beaucoup de fois. Il y a même des prises où de toute façon je partais, je me suis levée comme ça de la table et je m'en allais 2 secondes rire pour pas tout gâcher et je revenais. Et aussi les moments où je me levais, j'allais pleurer parce que j'étais trop émue et je revenais. Mais il y a quelques.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a énormément.
J'ai quand même dû faire stabiliser un plan de Jean-Marie Drejoux, donc chef-op de Jean-Jacques Hano. Le mec a tout tourné dans sa vie. Et j'ai dû faire stabiliser un plan parce qu'il pleurait de rire.
C'est quand, la caméra bougeait.
C'est quand il y a la bite. Les gens, il y a quelques fois le mot bite dans le film, vous verrez. Non. Et à un moment, Ludo crie très fort. C'est les couilles! Et j'avais pas prévenu Jean-Marie, et je vois vraiment la cam faire ça. Et je me dis, putain, je vais devoir stabiliser un plan du mec. Qui est là.
Du plus grand dire
c'est faute. Là, ouais, il est au syndicat des chefs opérateurs américains, et il se la raconte avec ça, et je suis obligé de stabiliser son plan.
Vous l'avez compris, beaucoup d'humour, beaucoup d'humeur, beaucoup d'intelligence et de sensibilité, beaucoup d'émotion. Et puis cette intrigue, donc, qui sert de fil conducteur à ce film, c'est-à-dire de bras cassés, qui font un braquage et qui pour finalement trouvent la meilleure planque possible, un car avec des adultes handicapés mentaux et des moniteurs, et ils partent en colo avec eux, le temps finalement de s'en sortir, mais finalement leur stratagème va peut-être dépasser justement cette émotion et les ramener alors au niveau humain où ils sont, c'est-à-dire qu'ils vont se révéler et aux autres et à eux-mêmes. C'est une réussite en tout cas, ça sera le 1er mai au cinéma, ça s'appelle Un petit truc en plus. Voici Tanguy Pasture.
Vous savez, mon apparence de star de l'humour inaccessible cache en fait un cœur d'or et un amour du public. Je peux qu'aimer ces gens qui lâchent 30 euros pour me voir moi tout seul, alors que c'est le prix qu'on paye aux zoo de Beauval pour 30 000 bêtes. En plus, moi, c'est moins spectaculaire, je me gratte pas, je me lèche pas l'anus. Je devrais d'ailleurs, là je la ferai ma tournée des Zéniths. Show interactif, le public lécherait le sien en même temps. Enfin un spectacle dont 100% des gens partiraient satisfaits. Je vois déjà les commentaires sur Billets Réduc. Enfin, je peux dire que je me connais vraiment grâce à Pastu, quoi. Bon, par contre, faut que je me dépêche pour le faire parce qu'avec l'âge, bon, je perds en souplesse. Bref, je suis proche du public, ce qui fait qu'à la fin de la représentation, je fais des selfies, alors que j'ai horreur de ça. Parce que le selfie a un défaut majeur, dessus tu vois ta vraie tête. Pas celle du miroir de ta salle de bain quand t'es parti sur une ambiance tamisée, avec un petit bâtonnet d'encens qui te noie dans la fumée. Moi, dans la mienne, je fais carrément des feux de camp. Une fois, j'ai retrouvé un mec à queue de cheval qui faisait Stairway to Heaven à la gratte sèche. Non, sur le selfie, tu te vois tel que tu es réellement. Or, personne ne mérite ça. Il n'y a rien de pire que le réel. C'est pour ça que je suis contre le fait que les gens se retrouvent après cette vue sur Tinder. Je pense qu'à la place, il devrait faire l'amour à la photo de profil de la personne. Surtout qu'après, il y a des lingettes spéciales pour nettoyer les écrans d'ordi. Le réel, c'est Paris. Tu te dis la Tour Eiffel, waouh ! Et là, tu entres par la porte d'Aubervilliers. Le réel, ce sont les invités de la bande originale. Tu dis waouh, ils doivent être glamour. Et là, ils déboulent en doudoune sans manche, pas lavé. Une fois sur deux, je leur donne un ticket resto pour aider quand je les vois partir en Tesla avec chauffeur. Mais je suis dégoûté. Là, aujourd'hui, ça va. On est sur des invités propres. Mais parfois, on a des acteurs qui tournent dans des films d'auteur. Parfois des films d'auteurs belges. Le réel, c'est ton oncle à qui tu fais un bisou quand t'es enfant, et là tu sens comme une raideur. Le fantasme, c'est la révolution. Non. Tu penses Robespierre en perruque poudrée. Le réel, c'est quand tu te retournes et dans la rue, il y a Éric Coquerel de la France Insoumise, en doudoune sous veste, qui écrit sur Insta « Marée humaine » en zoomant sur les 200 types en train de défiler. Donc le selfie, moi je comprends qu'on en fasse, mais moi je suis pas à l'aise avec le concept. Je préfère voir d'autres gens que moi, des gens mieux. Bon là, comme ça, j'ai pas d'exemple, mais bien récemment, j'ai fait développer de vieux films de famille qui étaient en Super 8. Et les personnes qui filment, elles se filment pas elles, elles filment des paysages. J'ai des dizaines d'heures de vidéos de cols de montagne des Pyrénées. L'énorme climax du truc, c'est quand à un moment, on aperçoit un chamois. On dirait un clip de Lana Del Rey tellement c'est planant. Planant, ça veut dire chiant, mais artistique. Un album planant, tu sais que tu vas pas danser. Un film planant, tu sais que tu vas dormir. Moi, je connais même des gens planants. Dès qu'ils se mettent à parler, tu pars dans ton monde en disant, je suis en train de penser qu'il faut que j'achète de l'Evian et du PQ, c'est dire à quel point ce mec est planant. Donc le selfie, je juge pas. Si les gens sont contents de ce qu'ils voient, tant mieux. Ça doit être fabuleux de pas se rendre compte. Mais par contre, ça va trop loin. Cette semaine, j'ai lu un truc qui m'a écœuré. Aux États-Unis, un groupe d'idiots a aperçu deux oursons perchés sur des branches d'un arbre. Bon, ils attendaient leur mère partie chercher à manger, mais elle avait du retard. Peut-être qu'elle avait oublié sa carte Leclerc. Bon, et pour payer ses gaufrettes au miel, c'était la galère. Moi, un ourson, j'y touche pas, parce que je sais qu'ils ont une famille et que d'un coup de patte, ils peuvent me lasser. Serrer la face. Alors ok, ensuite tu passes dans l'émission Blockbuster sur France Inter avec Frédéric Sigrist en expliquant que c'est une histoire d'amour avec Wolverine, donc qui s'est mal terminée. D'accord. Mais là, les gugus ont attrapé des oursons, les ont sortis de l'arbre pour, je cite la presse, prendre des photos avec eux. Mais enfin, enfin attend que Kenji Girac se remette sur pied et fait un selfie avec lui. Cet air candide, cette belle barbe, c'est moins un gitan qu'un ourson. Hein, moi, c'est pas qu'il habite dans une caravane qui me surprend, c'est qu'il vive pas dans une grotte, ce mec. Mais foutons la paix aux oursons. Je veux dire, choper un animal sauvage pour une photo avec lui, c'est totalement con. Et d'ailleurs, à l'inverse, jamais un animal n'a envie de poser avec nous.
Carrément.
90% des photos qu'on essaie de faire avec un chat, le chat se barre. Moi, j'ai 40 photos de moi avec un bout de queue de chat qui est en train de se casser sur la photo. Franchement. Donc, la fin de l'histoire, c'est que des gens ont vu ce groupe de pleupleux faire des selfies avec les oursons. Ils ont alerté une biologiste. Après, il faut en avoir dans ses contacts. Hein, moi, j'ai que des collègues humoristes dans les miens. Donc, si je vois quelqu'un attraper un ourson, je peux appeler les Baudins. Bon, mais je vois pas ce qu'ils pourront faire. À part un sketch avec un animal inédit.
Voilà.
Bref, la biologiste arrive. Elle trouve les deux oursons en état de sidération. Déjà, se faire capturer par des humains, c'est pas top. Mais par des Américains, c'est dingue. Qui hurlent « Oh my God, Teddy Bear's amazing !» Mais c'est pas un hasard si les Guns N' Roses font cette musique-là. C'est juste que si t'as pas quatre guitares et un chanteur qui glapit, tu entends ton public d'Américains. Loudoyon, c'est valable parce qu'on est en France et qu'on est fin et distingué. L'un des oursons n'a même pas pu retrouver sa mère parce qu'il faut savoir que quand on touche à certains animaux, la maman refuse ensuite de les reprendre. Heureusement que pour nous, ça fait pas ça, vous imaginez. Non, papy, touche pas Timéo. Ah, trop tard, j'en vais plus. Allez, hop, sur le Darknet pour le trafic d'organes. Hein, bon, conclusion, les humains sont des cons, les selfies, c'est nul. En plus, si tu en fais avec un ourson, il n'y a que toi qui aura l'air moche, parce que les oursons, c'est mignon.
Merci, Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau, ce soir, bah, je ne sais pas où tu es ce soir. Je ne sais pas ce que tu fais ce soir, d'ailleurs.
Je suis à la maison.
Mais le 16 janvier, en tout cas, je sais que tu seras à Lyon, au Radiant.
Oui.
Mmh. Oui. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. Deux, trois, elle tremblait de montrer quoi.
On a parlé de l'intrigue autour du film. On a parlé évidemment de les de la colo et de ces adultes en situation d'handicap mental. On n'a pas parlé de la comédie romantique aussi. Je voulais saluer Patrick Chanfray qui joue votre amoureux,
ouais,
mais qui est à l'autre bout du monde, qui est parti aux États-Unis, je crois, et qui vous pousse à quitter la colo. Et là, il y a un déchirement aussi. Il y a une... Il y a votre histoire particulière.
Ça sent pas bon, quoi.
Ouais. Il y a quelques histoires d'amour qui se jouent aussi, peut-être entre nos pensionnaires, et petits trucs.
Entre eux, ouais, c'est ça.
Voilà, on a, c'est un mix, ce film, quoi. C'est une vraie comédie solaire, comme le dit Artus, avec de la lumière, de la couleur, et du coup, bah, il y a de l'amour aussi dans tous les sens.
Oui, enfin, sauf que tout le monde vous désire dans ce film, Alice Blaydi.
Tout le monde me désire.
Ah, c'est un documentaire, alors?
Oui.
Ah, pardon.
Non, mais attendez, il faut que ce soit clair, voilà. Ah, oh, merde, il y a mon père qui va écouter. Papa, je dis ça, je te jure que c'est cool.
Trop tard. Un petit truc en plus, ça sera le 1er mai au cinéma. D'autres événements, oui, culturels, Leïla.
On cherche un biopic très attendu qui sera en compétition à Cannes le mois prochain. Il sera incarné par Sebastian Stan, qu'on a vu dans Captain America, dans Moi, Tonya aussi. Ce personnage, cette véritable personnalité, est né en 46 et d'une certaine façon, si on parle de classement, il occupe la 45e place.
C'est un sportif ?
Non. Alors c'est une sorte de classement, c'est pas un vrai classement. Hein. En tout cas, c'est le 45e de quelque chose. Ouais. Il s'est illustré dans l'histoire.
C'est le président des États-Unis.
Absolument. C'est, ouais, un monsieur qui aimait bien écrire en lettres capitales sur feu Twitter.
Ah bah Donald Trump.
Absolument, c'est le biopic sur Donald Trump. Mais The Apprentice, c'est le 45e président des États-Unis, c'est pour ça. Et il est né en 46 à New York. On va revenir dans ce film dont le titre est tiré du nom de l'émission de télé-réalité qu'il présentait. On va revenir sur sa carrière, la carrière du jeune Trump. Dans les années 70 et 80. The Apprentice, donc, qui sera présenté à Cannes. Est-ce que vous avez un biopic incontournable, un biopic que vous estimez très très réussi, que vous avez revu récemment, ou vous connaissez bien?
Oh, moi, j'ai aimé Ray, sur Ray Charles, très très fort.
Moi, putain, je réfléchis. Oui.
Dalida.
Forrest Gump, parce que tout est vrai. C'est un biopic. Le gars a vraiment existé, il a vraiment fait tout. J'adorerais. Il a fait tellement de choses, tu vois, que j'adorerais que ça soit vrai. Qu'il y ait vraiment ce mec qui existait, qui était champion de ping-pong, qui était, tu vois, j'adorerais.
Non, c'est ça. Un vrai biopic?
Franchement, je trouve que Pierre Niney dans Saint-Laurent était, ouais, quand même une belle perf.
Autre question spéciale Alice. Parce que quand on regarde l'Instagram d'Alice, on a envie de lui poser cette question. Ah. On cherche.
Déjà, elle réussit à faire des photos avec les chats.
Ouais, ça arrive.
Pas qu'avec les chats.
Ouais, mais j'en fais mille, j'ai que ça qu'à foutre.
Le Becherel, on oublie.
Ouais, je l'ai laissé la sortie.
C'est ça.
Sac à foutre, un petit samedi soir, c'est une insulte autant qu'un projet.
Eh ben, Tanguy. On cherche la plus belle plage du monde. Et je me suis dit qu'Alice allait se
voir.
C'est en Bretagne.
Pour moi, c'est peut-être Lens-Couleuvre en Martinique, mais c'est un choix très personnel.
Ouais. Là, il y a eu un classement fait par un site qui agglomère toutes les réponses des gens.
Votre projet, c'est de vivre.
Je suis pas loin des six mois là quand même déjà, mais c'est vrai que la nature me manque. J'aime beaucoup les Caraïbes et je peux plus me voir les Parisiens en fait. Voilà. Tout
simplement. Ah bon. Alors cette plage, où est-elle d'après vous? C'est des plages, plages de sable.
Bahamas.
Non,
Dijon, en France.
La Tanzanie. Ouais,
tu vas voir que ça va être un truc.
Dijon, ça va être
en France. En Bretagne,
entre Dijon et Tours. C'est pas en France.
Ah, c'est pas en France.
Il y a des falaises couleur ocre, cadre assez fou. C'est un pays qui est assez réputé pour ses plages.
La Grèce.
En Inde.
Ah bon. Costa Rica.
Non, proche,
au Kenya.
Non, plus proche.
Italie.
Pas loin.
Les Pouilles,
Portugal.
Italie. Portugal, absolument. Ah, oui. C'est la plage de Falésia, au Portugal. Allez voir.
Falésia,
ok.
Mais l'eau est froide.
Je ne sais pas non plus, mais je trouvais ça. Je trouve que ça sonnait plus Falésia.
Je ne sais pas si l'eau est froide. En tout cas, les photos sont assez impressionnantes. Je voulais vous demander votre journée rêvée à la plage. À quoi elle ressemble, Alice Belaïdi? Donc, on est en Martinique.
C'est totalement son instinct.
Bien sûr.
Alors, je peux arriver très, très tôt et repartir très, très tard, par contre. J'avoue que j'ai une faculté à m'ennuyer à la plage très large. Mais non, je m'ennuie, je lis, je vais dans l'eau, je regarde les crabes, je
mange accessoirement.
Ouais, je regarde la vie passer tranquillement et ça me va.
Ça m'angoisse.
Non, je n'ai pas d'enfant.
C'est pour ça,
non. Mais ouais, je sais, ça angoisse plein de gens, au contraire, l'ennui ne m'angoisse absolument pas. Et j'aime.
Vous êtes capable quand même de prendre en photo vos orteils à la plage.
Alors j'évite maintenant, vu que je suis sur tous les sites de fétichistes de pieds, machin, barbe.
Mais on vous adore, hein, nous.
Je sais que vous m'aimez beaucoup, j'ai 5 étoiles sur Fouikifi.
C'est
Wikipédia des pieds.
Ça fait longtemps quand même que vous êtes la cible de ça. Hein,
On est toutes un peu la cible.
Des pieds.
Tu montes tes pieds.
Wikifit.
Il y a des notes.
Ok.
Ah mais c'était vous, Tanguy. Ouais. Je me demandais. Voilà.
Je suis sur Wikigenou aussi, mais on est trois.
Donc j'évite de montrer mes pieds, mais j'aime bien faire des petites photos de plage. Ça fait plaisir.
Et vous, Artus, à quoi elles ressemblent vos vacances? Donc sans doute pas plage.
Pas calme. Non, mais j'ai du mal à me rester posé. Et la plage, le sable m'énerve, l'eau salée. Il me faut vraiment soit le transat avec la douche où je peux me rincer.
Mais
sinon, je suis pas. Moi, je préfère une piscine ou un truc.
Non,
ça me. C'est pas mal.
Et la plongée sous-marine.
Le sable dans l'arrêt.
Le sable dans l'arrêt.
Tout ce truc-là. Et t'as l'eau de mer qui t'a donné. T'as la peau qui.
C'est
pas génial. Mais non, c'est pas génial.
C'est
pas du tout. Donne-moi une piscine avec de l'eau chlorée. Très bien. Voilà. Du chlore.
Bon.
Et voilà.
Vous avez dit adorer, et c'était le plus beau tournage de votre vie, Alice Belaïdi, ce tournage d'un petit truc en plus. Le 1er mai, qu'allez-vous dire du fil de Daniel Auteuil?
Daniel, enfin, on est avignonnais tous les deux. Donc pour moi, Daniel, c'était une figure avignonnaise comme ça. Donc de me retrouver, j'avais tourné avec Daniel sur un film en tant qu'actrice. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et puis après, il m'a proposé un rôle dans le film qu'il réalisait. Donc ça m'a vachement touchée en tant qu'actrice, mais aussi dans mon histoire de femme, quoi, d'où je viens, où je suis aujourd'hui. C'était assez fou pour moi. Et c'est ma première montée de marche officielle à Cannes avec le fil, avec le film de Daniel.
Et Gaëtan Roussel.
Et Gaëtan Roussel, exactement.
C'est vrai, il faudrait le présenter.
C'est vrai,
c'est pas une vanne.
Non, mais c'est vrai.
C'est pas une vanne.
Mais t'aurais pas pu me le dire avant. Alors j'adore Gaëtan Roussel. J'ai confondu avec l'autre de Louise Attaque. Sylvain Dumas. La vie, ça
change de thème. Gaëtan qui a composé un album pour Daniel Auteuil et Daniel Auteuil lui renvoie entre guillemets la balle.
Ils sont devenus très amis. C'était le premier rôle de Gaëtan.
Je suis sûr que c'est un super acteur, Gaëtan, parce qu'il y a une tronche. Quoi.
Vraiment, c'est un dé en deux. Le film, il y a toute une partie qui se passe dans un palais de justice. Donc, moi, je suis avocate générale. Et toute une autre partie qui se passe dans la vie du personnage qui
est. Mais Daniel Auteuil aussi, c'est avocat.
Daniel est avocat. Donc, moi, je n'ai pas croisé Gaëtan. On s'est croisé comme ça à la cantine.
Et vous n'avez pas encore vu le film?
Je n'ai pas encore vu le film.
Waouh, d'accord.
On va le découvrir tous ensemble à Cannes, je crois.
Ok. Et ça représente quoi, de monter les marches à Cannes pour présenter un film ? C'est un plaisir ou c'est un stress ?
Là, je crois que j'ai l'âge pour que ça devienne vraiment un plaisir. Je sais que je serai pas la plus belle du festival, tout ça. Il y a toutes ces angoisses que t'as quand t'es jeune. Tu vas être la plus jolie, la mieux habillée, la plus parfaite, la plus machin. Mmh. J'ai lâché aujourd'hui et c'est surtout du plaisir que...
Parfait.
Cut.
Et il y a une autre montée aussi, parce que comme ça, on va l'annoncer officiellement. Comme ça, on va mettre vraiment les producteurs dans la sauce, parce que c'était pas sûr à 99%. Mais comme ça, ils se démerdent. Mais on va monter avec nos acteurs, normalement... un petit peu différent, avec toute l'équipe du film, normalement, on va faire une montée des marches.
Ah, génial. Wow.
Donc voilà, comme ça, au moins, merci. Ils sont obligés de le faire maintenant.
Merci pour le scoop. Ouais. On a parlé tout à l'heure des Jeux Paralympiques. Artus, vous en êtes donc l'un des parrains, pour employer une formule que vous me proposiez tout à l'heure, en disant « je ne sais pas ce que ça veut dire parrain ». Enfin, vous allez courir avec la flamme, quand même.
Je suis relais de la flamme à Montpellier, vous avez la date ?
Non, mais je sais que c'est en mai.
Ouais. 18. Attends, tu veux que je l'aie ?
Non, c'est pas.
Bon, oui, voilà. Mais
ils s'en rendront bien compte. Oui, de toute façon. Quand ça roulera plus.
Exactement.
C'est que la flamme est là.
Quand il y aura un con qui va passer avec une allumette dans la main, c'est moi.
Et puis, votre nouveau One Man Show, est-ce que Sylvain est dans le spectacle à nouveau ?
Bien sûr, Sylvain est dans le spectacle et plein d'autres sujets. Je parle évidemment. Le handicap prend une belle partie, mais on parle aussi de cul, de régime, de tout. Enfin, voilà.
Ça sera du 26 septembre au 31 décembre au théâtre Édouard VII,
ouais,
que vous jouerez ce spectacle. Vous êtes en tournée en 2025. Montbéliard, Rouen, Mâcon, Annecy, Grenoble, Chambéry, Boulogne-sur-Mer, Saint-Brieuc.
Et tous les zéniths, on termine par tous les zéniths.
Clermont-Ferrand, puis il y aura, ouais, en effet, Lyon, Montpellier, Nice, Marseille, Rouen, Reims, Metz, Angers. Là, on est déjà dans un an. Hein.
Ça se remplit bien.
À Rennes, à Nantes. Le point de départ du spectacle, c'est de. Vous avez dit, je vais me foutre de tout et de tout le monde.
Ben en fait, ouais, je me suis vraiment dit, ça sera peut-être mon dernier spectacle. On ne sait pas.
Avant la prison.
En tout cas, ouais. Non, mais en tout cas, je me suis rarement mis des barrières, mais là vraiment, je n'ai plus rien à branler. Je vous le dis honnêtement, voilà.
Et puis pour reparler de Cannes, au-delà de la montée, donc d'un petit truc en plus et de la troupe, il y aura la Pampa que vous aviez annoncé tout à l'heure d'Antoine
Chevrolier, ouais, qui est à la semaine de la critique. Donc pareil, c'est ma première montée officielle et c'est la première fois, moi pour le coup, c'est ma première montée tout court. Voilà, là où Nabila, on a déjà fait 9, donc. C'est cool.
Ce qui fait qu'Alice, vous allez la monter deux fois, donc, et pour le film, et pour un petit truc.
Voilà. C'est cool. Voilà, de toute façon, ils ont
deux robes maintenant. Il faut deux robes.
Ouais, c'est ça, ça va être. Bon, je vais mettre la même, genre.
À l'endroit, à l'envers.
Mais il peut se passer tout ce que tu veux sur le tapis rouge. Hein. Quand il y aura les 10 sur le tapis rouge, il peut y avoir Brad Pitt en train de sucer DiCaprio à côté. C'est-à-dire que personne ne les regardera. Personne ne regardera. Notre équipe, elle va être folle.
Alors, sur le plateau, il y a une fois où je jouais un truc comme ça en arrière-plan, quand même, un peu émotion et tout. Et je vais voir Artus et je lui dis. C'était bien, il dit, tu sais, tu pourrais être en train de bouffer le cul d'Emratak, personne ne te regarderait là. C'est vrai qu'en premier plan, il y a Mayan et Marie, et ça a donné...
Qui ramassent tout.
Parce qu'ils ramassent tout, ils prennent trop, c'est dégueulasse.
Et tant mieux. C'est le 13 mai que vous devez être à Montpellier pour la
C'est le 13 mai que je porte la flamme, évidemment.
Des excuses à présenter, Mélodie Fontaine.
Oui, désolé pour les personnes chargées du casting du Bureau des Légendes, qui en fait ont été traitées de feignasses par Alice et Artus, qui ont résumé leur boulot à « il leur fallait une arabe et un gros », ils nous ont pris. Donc s'ils cherchent pour un autre projet une belle blonde à l'élégance naturelle, je connais quelqu'un. Désolé aussi pour nos auditeurs précaires et dans la difficulté qui ont été choqués, humiliés par le débat bronzage de riche entre Alice et Nagui. Alors oui, moi aussi je m'insurge. Hasta siempre, camarade. Et enfin, désolé pour Pascal Obispo qui a appris son décès, Gaëtan Roussel qui a découvert qu'il faisait de la merde, Kenji Girac qui a été traité de gangster. Enfin, je vais pas citer Artus. En revanche, en off, il nous a confié bien aimé Dieudonné et Bertrand Cantat. Donc voilà.
Merci Mélodie. Merci et bravo Artus. Merci et bravo Alice Mélanie.
Merci beaucoup.
Pour ce film, un petit truc en plus au cinéma le 1er mai. Lundi, nous recevrons Bouli Lanners et Céleste Brunkel. Passez une très belle journée.
Je t'aime Bouli. Bisous.